Bienvenue à tous et à toutes. Et si vous voulez vous tourner dans votre Bible, les pages du milieu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est l'endroit où on trouve les petits prophètes. Et on continue dans l'étude de Joël. Joël, son nom veut dire l'Éternel est Dieu. Il n'y en a pas 50, il y a un seul Dieu, un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons prier. Joël 2, 18, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole sur laquelle nous pouvons fonder nos vies. Comme on peut construire une maison solide sur la fondation solide d'un rocher, tu nous dis, Seigneur, que ta parole est la vérité, que tu l'envoies pour qu'elle accomplisse son effet dans nos vies, dans notre monde. Seigneur, nous voyons combien notre monde est malade à bien des égards. Et toi, Seigneur, tu veux guérir, tu nous encourages à revenir à toi. Tu nous dis de revenir à toi de tout notre cœur en le montrant par des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Tu tiens à ce que ce soit nos cœurs que nous déchirions, pas nos vêtements. C'est-à-dire que tu veux que nous ne soyons pas dans la religion mais dans la relation avec toi, Seigneur. Merci de nous rappeler combien tu nous aimes. Nous avons vu dans le prophète Osée combien nos idolâtries sont un déchirement pour toi parce que tu nous aimes comme un mari aime sa femme bien-aimée. Seigneur, sois à l'œuvre. Tu nous dis que nous pouvons venir à toi parce que tu es un Dieu plein de compassion. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Même le mal que tu envoies pour nous discipliner, Seigneur, ça te fait mal au cœur. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole, à la diviser de façon juste pour pouvoir l'appliquer dans nos vies. Sois béni, Seigneur. Nous te demandons ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Lisons ensemble à partir du verset 18 de Joël 2. L'Éternel aime jalousement son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, « Je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile, vous en serez rassasiés et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer morte et son arrière-garde dans la mer Méditerranée. Son infection se propagera, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. » Verset 21, « Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bête sauvage, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » Nous allons nous arrêter ici pour l'instant. Donc, si vous vous souvenez, la prophétie de Joël, dont on sait peu de choses, à part que son papa s'appelait Pétuel, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait, ils subissaient une invasion de sauterelles. Et cette invasion était terrible. On a dit que c'est vrai, on n'est pas tellement habitué à ce genre de fléau, de phénomène biologique ou de l'environnement dans nos contrées, mais on disait qu'en fait ça se passe encore quotidiennement, ou pas quotidiennement, mais de façon fréquente, en Afrique, à Madagascar notamment, en Égypte, en Israël, en Russie. Et c'est quelque chose de terrible parce que c'est comme une armée qui avance. Vous vous souvenez de cette expression, on l'a lu à la fin là aussi, il décrit les différentes étapes de la croissance des sauterelles. Ce qu'il appelle la sauterelle, le grillon, c'est dans le verset 25 qu'on vient de lire, le criquet et la chenille, c'est comme une grande armée. Et en fait, ce sont différents stades de la croissance de ces insectes très voraces qui peuvent détruire des récoltes en quelques instants. En quelques jours, ils peuvent laisser la terre complètement dévastée comme s'il y avait eu un feu. La sauterelle, c'est le mot en hébreu gazam. Il y a d'ailleurs une version, la version second de 1901, qui a fait longtemps autorité dans les milieux évangéliques français, milieux protestants. C'est le mot gazam qui veut dire de trancher ou de dévorer. Et ensuite le mot arbé, lorsqu'ils deviennent plus grands, ils se rassemblent en essaim, et on appelle ça les essaimeurs. Dans une autre version, il y a le mot qui correspond au mot de sauterelle, c'est de grillon, pardon, c'est le mot yélek, qui veut dire que ce sont des animaux qui lèchent, finissent de les plantes qu'ils ont attaquées en faisant comme s'ils les léchaient, un peu à l'image. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous mangez un bon dessert, une bonne glace, si vous êtes en bonne société, vous n'allez pas le faire. Mais si je suis seul ou avec mes proches, discrètement, je vais lécher la glace. C'est ce que veut dire le mot grillon, c'est ceux qui finissent tout. Il reste une assiette propre, complètement propre. Et puis, il y a encore le mot de racile qui est traduit par criquet. Ce sont ceux qui décortiquent. S'il reste encore des branches, même s'il n'y a plus tellement d'herbe, ils vont casser les branches, essayer de retirer la substance, la sève et les choses nutritives encore dans le bois. Donc c'est vraiment un phénomène terrible, et ça représentait pour les gens qui subissaient ces choses comme une calamité qui était un jugement. Et une expression qui revient dans le prophète Joël, c'est le jour de l'Éternel. On a plusieurs étapes. On a vu qu'en fait, les premiers chapitres qu'on a vus, c'était un jour du Seigneur, un jugement. Le jour du Seigneur, c'est de l'Éternel plus exactement, c'est un jugement que Dieu inflige à une humanité pécheresse. Et il y avait cette première punition qui était immédiate. C'est le jour de l'Éternel immédiat avec cette invasion de sauterelles. Mon père disait souvent, lorsqu'il lui arrivait des problèmes, c'était pas quelqu'un, malheureusement, il n'était pas chrétien, je crois pas qu'il qu'il était sauvé, il avait été élevé pendant un temps chez des bonnes sœurs, et il avait estimé que tous les chrétiens étaient des hypocrites. Et il avait une expression, lorsque des choses embêtantes lui arrivaient, ou des revers de fortune, il disait « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Et tous, dans notre fort intérieur, on a le sentiment que lorsque les choses vont pas, et c'est une bonne chose de se le demander, peut-être c'est parce qu'on a fait quelque chose contre Dieu. Et on a rappelé la semaine dernière qu'en fait, nos souffrances étaient causées au moins par trois raisons. La première, c'est que nous vivons dans un monde qui est entaché de péché. J'ai été très attristé cette semaine. Mon beau-frère a un frère qui voyageait en Italie avec sa compagne, la maman d'une petite fille de 6 ans, en moto. Et en un instant, en voulant refaire marche arrière, faire revenir sur leurs pas parce que le trafic était complètement bloqué, ils se sont heurtés. Il y a eu une violente collision contre trois autres motards qui arrivaient très vite dans la file où ils n'auraient pas dû être. Et la maman a été tuée instantanément. Et mon cœur va vers Chris, son compagnon, mais encore plus vers cette petite fille de 6 ans qui a perdu sa maman, qui ne reverra plus jamais sa maman. Et on vit dans un monde où ces choses arrivent. Pourquoi ? Parce qu'on est impatient, on ne suit pas les règles, on veut aller toujours plus vite. Il y a aussi le fait qu'on est confronté à la maladie. Et je sais que pour certains, c'est une épreuve présente et véritable. Pour d'autres, on sait que c'est une possibilité. On se dit, ça va bien, mais on dit pour l'instant, parce qu'on sait que tôt ou tard, on va finir par attraper quelque chose qui va mettre fin à notre vie. Donc tout ça, le péché a causé la mort. Le péché est entré, la mort est entrée dans le monde par le péché de nos ancêtres. Encore une fois, les scientifiques se disent qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne vive pas plus longtemps. Pourquoi est-ce que nos cellules commencent à se dégrader, la reproduction de l'ADN et il n'y a pas vraiment... La Bible nous explique que c'est à cause du péché. Le péché est entré dans la race humaine et la mort est entrée avec elle, avec lui, le péché. Donc, premièrement, on vit dans un monde de péché. Deuxièmement, on fait des choses stupides. On ne fait pas des choses sages. Et quand on fait des choses stupides, on en subit les conséquences. Quelqu'un me fait signe que oui, je sais ce que c'est que de faire des choses qui nous causent des problèmes par nos propres décisions mauvaises. Et puis, nous avons aussi un ennemi. Le diable, ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas un joli conte poétique. Le diable est une personne réelle. La Bible nous explique que c'est un ange déchu, un ange de toute beauté qui s'occupait de la louange céleste, mais qui, par orgueil, a voulu se faire aussi grand que Dieu et du coup a entraîné le monde dans le péché, mais il est là maintenant à essayer d'entraîner le plus grand nombre possible de personnes à sa suite. Et le péché, le diable, c'est une réalité. Le chrétien a trois ennemis, le monde aussi, c'est ce monde. D'abord, il y a notre propre péché qui nous attaque, qui nous fait faire des choses stupides, dont nous avons à souffrir les conséquences. Il y a le monde autour de nous, où notre péché trouve à se satisfaire. Le monde, ce n'est pas la planète Terre. Dieu l'a créée, elle est belle, elle est merveilleuse. Nous sommes appelés à l'entretenir, pas à la vénérer comme une idole, mais à prendre soin d'elle. Et cette terre, elle est habitée quand il est dit que nous sommes le monde, plus exactement, le monde, et c'est le système de valeurs qui rejette Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a peut-être une époque où être chrétien, c'était respectable, c'était admis, c'était même recherché dans la société, mais c'était une forme de religion extérieure, ce n'était pas quelque chose de très fort à l'intérieur. Et nous vivons dans un monde qui, pour la plupart, rejette la parole de Dieu, rejette les valeurs de Dieu. On voit même que les hommes politiques européens refusent d'admettre que l'Europe a été bâtie sur des bases chrétiennes. C'est pas une matière à opinion, c'est une réalité historique, c'est un fait historique. Quand il suffit de parcourir l'Europe pour voir l'influence, le nombre d'églises, de clochers, de croix, de voir aussi comment beaucoup de ces valeurs judéo-chrétiennes ont été reprises par la République, la solidarité, l'amour, le pourvoir aux besoins des autres, les hôpitaux, l'enseignement. Tout ça, c'était au départ des choses qui sont venues grâce à la culture chrétienne fondée sur des valeurs de la Bible. Donc ce monde, il est aussi notre ennemi. Il y a d'abord mon péché, il y a le monde, et puis celui qui mène le monde, c'est Satan, encore une fois, notre ennemi. Et donc, eux, ils avaient péché. Le péché principal qui leur est reproché, c'était qu'ils s'adonnaient à l'alcool. Ils ne se souciaient pas de Dieu. Ils ne pouvaient même plus offrir avec ces catastrophes de sécheresse, d'invasion de sauterelles et qui a été accompagnée par une sécheresse terrible. Ils ne pouvaient même plus se livrer à des gestes religieux, rituels. Ils ne pouvaient plus offrir le vin, il n'y avait plus de vin à offrir, il n'y avait plus d'huile à offrir en sacrifice, comme leur pratique religieuse le demandait à l'époque, basée sur la Bible. Il y avait tout un système de sacrifices. Et lorsque vous êtes nouveau dans la connaissance de la Bible, que vous démarrez, vous vous demandez pourquoi c'est tellement détaillé. Lorsqu'on lit le Lévitique, même l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres, le livre du Deutéronome qui rappelle tout ce qui a été la loi qui a été donnée par Dieu. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, les systèmes de sacrifices? Il y avait des sacrifices de communion, il y avait des sacrifices d'holocauste où les sacrifices étaient complètement brûlés. Il y avait des sacrifices de plein de sortes en offrande d'animaux, en offrande de produits de la terre. Et tout ça, c'était pour montrer que le péché coûte cher. Le péché complique les choses. Il n'est pas simple de se débarrasser du péché. On ne peut pas dire « tout le monde le fait, c'est pas grave, le péché c'est quelque chose qui nous pourrit la vie ». Et c'était un peu un contraste qui est bien explicité dans la lettre aux Hébreux. C'est qu'avant il fallait faire toujours ces sacrifices dont l'effet ne durait qu'un temps. Et puis il y a eu le sacrifice parfait, Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice à la croix, qui a versé son sang pour vous et pour moi. Ils ont donc ce jugement, et il y a tout de suite aussi l'annonce d'une autre invasion. Ça va être l'invasion des Assyriens qui vont attaquer Juda. Encore une fois, il y avait deux royaumes, le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda, dont la capitale était Jérusalem. Joël parle à Juda. Il connaissait bien le service du temple, il fait beaucoup d'allusions. Donc on a toutes les raisons de penser qu'il s'adressait à Juda. Il va y avoir une invasion des Assyriens, qui était un peuple dominant à l'époque, un peuple très cruel. C'est eux qui ont inventé le sacrifice de la croix à l'époque. Et cette invasion, elle est comparée à l'invasion des sauterelles. Il va y en avoir des hordes, des centaines de milliers. Et la description du début du chapitre 2 qu'on a regardé la semaine dernière montre cette menace terrible qui pèse sur les gens. Et puis là, il appelle le peuple à revenir à Dieu. Et encore une fois, tout ça, on l'étudie pas parce que on veut être des experts en histoire antique de l'Antiquité, mais parce que ces histoires ont été écrites pour nous, sur qui la fin des temps est arrivée, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10. C'est pour des leçons personnelles, des leçons collectives aussi. Nous devons toujours revenir à Dieu. Nous sommes nous aussi menacés par des sauterelles. Ce sont toutes les tentations qui se multiplient autour de nous. Nous aussi, nous pouvons être complètement ravagés par les péchés si nous nous laissons faire et si nous ne revenons pas à Dieu. Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait, peut-être regrettera-t-il et vous laissera accomplir des gestes religieux. Il vous redonnera des vives, il vous redonnera des produits de la terre. Il nous invite à nous rassembler. Il nous invite à chercher Dieu ensemble. C'est intéressant parce qu'en fait, si vous êtes un tant soit peu critique de ce qui se passe en ce moment dans notre pays, vous voyez que notre pays est malade. Amen. Vous trouvez que ça va bien? Vous trouvez que les institutions fonctionnent bien, qu'il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs qui s'équilibrent, qu'on peut dialoguer, qu'on peut avoir une vraie démocratie? Si vous le pensez, c'est peut-être que vous n'êtes pas tellement au courant de ce qui se passe. Et je pensais, et c'est pas une nouvelle, une idée nouvelle, que en tant que chrétien, nous devrions prier ensemble pour notre pays. L'Éternel était apparu à Salomon. Je vous invite à vous tourner à 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, c'est après Roi, Samuel, Chroniques 1 et 2. David avait voulu construire un temple. Le prophète lui avait révélé que Dieu ne voulait pas que ce soit lui qui construise le temple. C'est son fils Salomon qui a eu ce privilège. Et au verset 11 du chapitre 7 de 2 Chroniques, il est dit « Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où on devra m'offrir des sacrifices. » Et notez bien, verset 13, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, la maladie, la pestilence, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Un contexte bien sûr particulier, il s'adresse à Israël. Mais aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui portent le nom de l'Éternel. Nous portons le nom de Christ, nous sommes des petits Christ. Hein. C'est ce que veut dire le mot chrétien à la base. quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura plus de pétrole, qu'il n'y aura plus d'électricité, qu'il n'y aura plus d'essence à la pompe, je crois qu'on peut, faire raisonnablement sans découper les cheveux en quatre, sans faire de fausses conclusions. Je crois que ce principe de ceux qui sont le peuple de Dieu doivent être les premiers à se repentir de la façon dont ils vivent, à demander pardon, à nous humilier, à prier et à rechercher Dieu. Et je vous invite, je nous invite à prier lorsque nous nous réunissons pour prier ensemble, à avoir cette attitude et pourquoi pas, à l'échelon national, susciter un temps de jeûne, de prière. C'est ce qui se passe dans certains pays où il y a une journée nationale de prière. Mais alors peut-être qu'il faut rechercher, il y a peut-être déjà quelque chose qui est en place, mais sinon je pensais voir comment on pouvait essayer de cesser de critiquer la CGT, le gouvernement, les immigrés espagnols qui font la corrida en France, à savoir Martinez et Valls. C'est facile de critiquer les autres. Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il en est de vous, de votre cœur ? Est-ce que vous n'avez pas des choses dont vous devez vous repentir ? Nous humilier, prier, le rechercher, et puis, encore plus fort, renoncer à nos mauvaises voies. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie auxquelles je dois renoncer ? Des choses qui sont en train de me manger comme un essaim de sauterelles. Parce que nous avons cette promesse, je crois que nous pouvons la réclamer pour l'Église aussi. Je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son péché, son pays. Le monde qui est paniqué autour de nous, s'il savait que c'est à nous de nous repentir et de demander pardon, il nous mettrait la pression pour le faire. Un peu comme les marins, lorsque Jonah a dit qu'en fait c'était à cause de lui qu'il y avait cette terrible tempête et qu'il s'est fait jeter à l'eau. Nous avons la clé. Aussi bien en France qu'aux États-Unis, où la perspective des candidats qui vont être entre lesquels il va devoir choisir n'est pas une perspective très brillante pour les chrétiens. Et donc, cette même injonction, Joël la reprend, il nous invite à revenir, il invite son peuple à revenir à Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui pardonne, Dieu est un Dieu qui donne ce que nous ne méritons pas, qui est plein de compassion, il souffre de nous voir dans le péché, il est lent à la colère. J'ai expliqué, en fait, ça veut dire qu'il a des narines, le texte en original dans l'hébreu, c'est qu'il a des narines très longues. On dit des fois que la moutarde me monte au nez, comme il a des narines très longues, il ne s'excite pas tout de suite, comme moi je peux le faire. Et je vous demande pardon quand je le fais, et je me montre comme un imbécile, bien des fois. Il est lent à la colère, il est riche en bonté, et ça lui fait même du mal de nous corriger. Parce qu'il sait que la correction n'est pas drôle quand on la reçoit sur le moment. Elle est bonne parce qu'elle produit de bons fruits. Et puis, le verset 18, donc après cet appel, il nous promet qu'il va restaurer. Ça, c'est la merveille de la Bible. On voit comment Dieu est prêt à juger l'homme pécheur. Mais il a toujours cet amour pour l'homme. Il a toujours cette grâce qui refait surface. J'ai cette image, cette semaine, quelques-uns d'entre nous sont montés, passés plusieurs jours, pour certains toute la semaine, à travailler, entretenir le camp chrétien de Saint-Martin de Vésubie, les enfants à la montagne. Et sur le champ principal que Craig et Barbara et Mitch et même Nancy ont bien coupé l'herbe, il y a toujours des rochers qui affleurent. On aimerait bien les faire sauter la dynamite, mais je pensais que c'était dans nos vies, c'est un peu comme cette grâce de Dieu. Même s'il y a les mauvaises herbes, il y a toujours ces rochers qui affleurent, ce rocher de l'amour de Dieu qui est là. On n'a plus envie de le faire sauter à la dynamite lorsqu'on pense comme ça. Il aime jalousement son pays, il épargne son peuple. Et donc il promet de renvoyer du blé, du vin nouveau, de l'huile, au point de nous rassasier. Il va éloigner de nous l'ennemi du Nord. Et là, on pense qu'il s'agit justement d'une illustration de ce jour de l'Éternel qui arrive, qui est ce jugement par les Assyriens. Il va chasser cet ennemi du Nord, vers une terre aride. C'est ce qui s'est passé en fait. Il y a eu un miracle. Les Assyriens qui ont emmené le peuple du pays d'Israël, le royaume du Nord, en exil au 722 par là, ils n'ont pas pu emmener ils ont attaqué Juda, le royaume du Sud, mais en une nuit l'ange de l'Éternel s'est débarrassé de troupes de 180 000 Assyriens armés qui se sont entretués et qui sont morts. L'infection, on imagine le nombre de morts dont les carcasses se décomposaient au soleil. L'odeur devait être extrêmement... C'est la puanteur dont il est question, à mon avis, au verset 20. Et Dieu fait souvent ça. Il utilise des païens pour punir son peuple, pour le reprendre dans ses mauvaises voies. Mais après, il reprend les païens aussi et il les punit d'avoir attaqué son peuple. Sois dans l'allégresse, 27-21, réjouis-toi car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur car le péché de l'homme affecte la nature. On voit comment l'intérêt de l'argent fait qu'on va procéder à la déforestation de l'Amazone. Dans Romains, il est dit que la création souffre aussi avec le péché de l'homme. Les bêtes sauvages n'ont plus de quoi manger, mais là, il leur dit, il s'adresse aux bêtes aussi, il s'adresse à la terre. L'Éternel va faire de grandes choses. C'est une prophétie qu'il voit comme déjà réalisée. Les plaines du désert vont reverdir. Les arbres vont donner des fruits, le figuier et la vigne vont produire abondamment. Et puis, il invite les habitants de Jérusalem, les habitants de Sion, à se réjouir parce que Dieu va donner la pluie. Nous, hein, on aimerait que ce soit le printemps éternel, pas une gramme de pluie, mais c'est... Comme disait Tonio, on peut remercier le Seigneur pour la pluie qui tombe, parce que nous en avons tellement besoin pour vivre. Et cette pluie, elle était... Il y avait ce qu'ils appelaient en Israël les premières et les dernières pluies. Les premières pluies, c'était les pluies d'automne. Les dernières pluies, c'était au printemps, avant que le blé et les céréales ne mûrissent et soient prêtes à être récoltées. Et là... On engrange des réserves de blé, on engrange des réserves de vin, d'huile. Et puis il y a cette phrase dont on avait parlé, « Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez, vous vous rassasirez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » Cette idée de honte, c'est l'idée de se confier dans quelque chose ou dans quelqu'un, et qu'au moment nécessaire, cette personne, cette chose, n'est pas là pour vous secourir. Vous avez peut-être pris une assurance contre la perte ou le bris de votre téléphone portable, et vous payez tous les mois quelques euros de plus. Et puis, le moment venu, lorsque vous avez finalement perdu ce téléphone, on vous dit « Ah non, ça ne s'applique pas parce que ça fait plus de 2 ans. » Et je vois que certains ont eu ce genre de mésaventure. Et quelque part, on se sent comme un imbécile. On est en colère d'abord, mais on se sent comme un imbécile, on a honte. On comptait sur quelqu'un, et puis cette personne n'est pas, cette assurance n'a pas fonctionné. Cette personne qui devait nous aider, qui nous avait promis qu'il nous aiderait avec des dons financiers peut-être, si on en avait besoin, on a honte. On se retrouve. Dieu nous dit, vous pouvez me faire confiance. Jamais vous n'aurez à avoir honte de moi. Et ça, j'ai pu le vérifier par expérience dans ma vie. Jamais je n'ai eu à rougir de faire confiance à Dieu. Je parle souvent du fait que, avant de commencer à enseigner la Bible à temps plein, d'implanter une église, je travaillais dans l'informatique aux États-Unis. J'avais l'assurance, la certitude de chèque qui arrivait. J'avais pas à dépendre de la bienveillance ou de la provision du Seigneur à travers des gens qui nous soutiennent ou des églises qui nous ont aidés, qui nous aident encore. Et jamais j'ai dû dire ah, zut alors, j'aurais pas dû faire confiance à Dieu. Il s'est bien moqué de moi, il m'a laissé tomber. Jamais Dieu ne nous a laissé tomber. Il ne nous a peut-être pas donné de grandes richesses matérielles. Il nous a donné plein de richesses spirituelles. La richesse de voir des âmes se tourner vers lui. Ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Mais vous pouvez faire confiance à Dieu. Vous pouvez lui remettre votre vie en lui demandant de vous guider, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de vos proches, des êtres que vous aimez. Et là, il nous dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré ces sauterelles. C'est intéressant parce que ils n'avaient pas perdu des années en quelque sorte, ils avaient perdu des récoltes. Mais tout ça, c'est associé au temps qu'on passe loin de Dieu et aux jugements qui viennent pendant ces temps de jugement. Et donc, il nous dit que il va remplacer les années. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va vous donner peut-être plus de temps, Mais le temps que vous avez perdu, vous l'avez perdu. Par contre, le temps que vous avez perdu, il est perdu. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas donné les fruits que vous auriez pu donner. Et il nous dit, c'est merveilleusement réconfortant, qu'il peut rattraper ce que nous avons perdu. Un de mes grands regrets, c'est de n'être pas venu à Christ plus jeune dans ma vie. Il a fallu que j'attende 33 ans pour qu'enfin je comprenne qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, qui m'invitait à le suivre, à le servir. Pas nécessairement à temps plein, on peut le suivre en étant instituteur, professeur, médecin, infirmier. Il n'y a pas de travail qui n'ait de mérite du moment qu'il est là pour servir les autres, du moment qu'il trouve sa place dans la société. Je pense que peut-être si vous envisagez de trouver du travail dans la mafia, ça ne qualifierait pas. Mais il n'y a pas de métier, vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous le faites comme pour le servir, comme pour le Seigneur. Et donc, oui, j'aurais souhaité venir à Christ plus souvent. Je regrette les années perdues où je cherchais des choses qui n'avaient pas de signification réelle, de signification éternelle. Mais en même temps, Dieu, par ce passage, me promet que les années, entre guillemets, que j'ai perdues, il va les remplacer. Et c'est vrai que peut-être que si j'avais connu le Seigneur plus tôt, ça n'aurait pas été si brutal dans ma vie de découvrir les merveilles de l'amour de Dieu. Peu importe, vous pouvez faire cette promesse, vous pouvez la prendre dans votre cœur et la chérir. Dieu rattrape le temps perdu. Ces choses que le péché vous a entraîné à faire, ces tentations que vous avez suivies, qui ont apporté bien des déboires et bien des malheurs, il ne dit pas qu'il répare tout. Si vous avez été meurtrier, si vous avez tué quelqu'un, la personne ne va pas nécessairement revenir à la vie. Généralement, ce n'est pas le cas. Mais il peut rattraper les choses. Je ne sais pas, lorsqu'on parle du temps que vous avez perdu, des choses que vous regrettez, chacun de nous peut penser à des choses, j'imagine. Ça peut être des choses dans l'intensité. Est-ce que je donne autant d'énergie à ma foi en Dieu que j'en donne dans mon travail ou dans la recherche de mes loisirs? Est-ce que j'aurais pu moi-même aujourd'hui mieux étudier ce passage? Est-ce que vous avez avancé dans votre vie chrétienne aussi vite, aussi fort que Dieu le voulait? Ou est-ce que vous êtes installé dans la complaisance? Je ferai ça plus tard, ou faut pas être fanatique. Si vous avez ce genre de regret, vous pouvez vous tourner vers ce passage qui vous dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille. » Les choses que nous gaspillons, Dieu peut les rattraper. Et l'invitation, c'est à cesser de gaspiller les choses. C'est à cesser de perdre son temps en choses futiles. Et les habitudes qu'on peut avoir sont dures à chasser. Et encore une fois, ce n'est pas nécessairement des péchés graves, mais c'est qu'est-ce que je fais de mon temps ? Est-ce que je l'utilise toujours en me demandant est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse ça? Ou est-ce que je me dis, bon, ben, c'est dimanche soir, j'ai travaillé toute la journée, si vous êtes pasteur, je suis fatigué. Maintenant, je vais être comme un légume devant le film que TF1 me propose. Ou est-ce que j'éteins la télé et je vais voir peut-être un film édifiant, un film chrétien, ou est-ce que je vais passer du temps avec mes enfants? Est-ce que je vais, à tout moment, est-ce que je fais bon usage des ressources que Dieu me donne? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sautelle, le grillon, le criquet et la chenille. À vous de voir quels sont les sauterelles, les grillons, les criquets, les chenilles. En fait, c'est sans doute les mêmes choses à différents stages, différents stades de leur avancement. Ce qui est terrible avec le péché, c'est qu'il demande toujours plus. On ne se satisfait pas des choses qui nous satisfaisaient il y a quelque temps. On veut aller un peu plus loin dans la nouveauté, dans l'excitation, dans la bizarrerie. Il y a cette croissance de la petite larve qui est la tentation, qui devient une sauterelle qui vous mange, jusqu'à ces grillons et ces criquets qui vous démantibulent avec leurs mandibules. C'est beau ça, hein ? Démantibuler avec les mandibules des criquets. Mais ça, il peut complètement ruiner votre vie. Parce que vous avez donné place aux larves, aux premières larves, aux premiers états du péché. C'est terrible. On va lire le début, le chapitre 3. C'est intéressant, les Juifs en ont fait, dans la Bible hébraïque plus exactement, il y a un troisième chapitre de 5 versets, comme dans la Bible que nous utilisons, la seconde 21, et puis à partir du verset 6 du chapitre 3, il y a un nouveau chapitre. Et en fait, c'est parce que ce qui est dit dans le début du chapitre 3, donc dans d'autres Bibles, il n'y a pas de chapitre 4, il n'y a qu'un long chapitre 3 qui inclut ces versets que nous allons lire. « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se jonchera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. » Une prophétie fantastique, prophétie qui est reprise en tout ou partie dans le Nouveau Testament, par l'apôtre Pierre, par l'apôtre Paul. Après cela, il est question du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, sa vraie réalisation, ce sera à la fin des temps. Et si vous êtes un peu familier avec le Nouveau Testament, vous avez lu le livre des Actes. On va lire le passage dans le livre des Actes. C'est après les évangiles. Donc vous tournez vers la droite, vous dépassez les petits prophètes, vous arrivez aux évangiles et vous arrivez aux actes des apôtres. Et le premier sermon prononcé par Pierre le jour de la Pentecôte, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur certaines personnes. Il venait sur certains rois, sur certains grands personnages. Joseph, par exemple, le pharaon avait reconnu que l'Esprit de Dieu était sur lui. Le Saint-Esprit pouvait même venir pour sur des ouvriers, les ouvriers du tabernacle. Il était Betsaleel qui a construit des ustensiles et du tabernacle. Il était rempli d'Esprit Saint. Josué était rempli d'Esprit Saint. L'Éternel venait demeurer sur lui. Les juges, on peut le lire dans Othniel, Gédéon, Jephté, Samson. Le roi Saül a été aussi recouvert par l'Esprit Saint. Le roi David, et on trouve l'expression « l'Esprit de l'Éternel vint sur ». On pense que la plupart des les prophètes aussi étaient habités par l'Esprit Saint. Mais ça ne venait pas sur le commun des mortels. Et là, il s'est trouvé que 120 personnes étaient réunies dans la chambre haute. Ça, c'est le début du chapitre 2 du livre des Actes. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Puis il est expliqué qu'il y avait des hommes qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte à Jérusalem, et ils étaient stupéfaits de voir qu'ils comprenaient ce que on leur disait dans différentes langues. Ils se demandaient, ces gens qui parlent ne sont-ils tous de Galilée? Comment se fait-il qu'on les comprenne dans toutes les langues? Il y avait une dizaine au moins de régions du monde de l'époque qui étaient citées, 10 à 12. Et d'autres, il est dit, ils disaient en fait, ils sont pas, c'est pas ça, c'est qu'ils sont, ils sont pleins de vin doux. Et alors, Pierre s'adresse à la foule. Pierre, debout avec les 11 apôtres, verset 14 du chapitre 2 du livre des Actes, s'exprima d'une voix forte en ces termes, « Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. » Aujourd'hui, on peut trouver des gens sous à une très bonne heure dans certains bars. On commence par la tournée des verres de vin. Mais non, il disait, c'est pas ça. Mais maintenant se réalise où c'est ce dont a parlé le prophète Joël. Et là, il cite la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. On va juste commencer à parler un peu de ce passage, car le temps nous manque. Mais Pierre dit, il dit pas que c'est la réalisation complète de cette prophétie se passe le jour de la Pentecôte, au moment où il parle, parce qu'il dit aussi qu'il va y avoir d'autres signes. Il va y avoir des prodiges, il va y avoir du sang, du feu, une vapeur de fumée, il y aura le soleil qui se changera en ténèbres, la lune qui deviendra rouge comme le sang. Il parle toujours de ce jour grand et glorieux, de jour de l'Éternel, comme d'une réalisation ultime. Il parle de la fin des temps. Si vous avez suivi un peu l'étude de la Bible en 24 heures, Tonio a couvert ces derniers temps dans l'étude de l'Apocalypse. L'étude de l'Apocalypse, en fait, certains disent « Oh, c'est trop difficile à comprendre, il y a trop d'interprétations ». Alors, c'est vrai que historiquement, il y a beaucoup d'interprétations qui font qu'on prend ça à la légère en tant qu'allégorie. Mais si on prend le texte tel qu'il est donné, nous est parvenu, qu'on voit qu'en fait, il y a un plan du livre de l'Apocalypse dans l'Apocalypse elle-même. Après ces choses, voilà ce qui se viendra et la description suit. Si on prend les choses littéralement, en comprenant qu'il y a des choses des fois poétiques ou des choses qui sont à prendre comme une expression qui représente une réalité et non pas prendre à la lettre lorsqu'il est question de la main du Seigneur ou de l'œil du Seigneur, mais c'est n'ayez pas la crainte de lire l'Apocalypse, d'essayer de l'étudier. On l'a étudié dans le passé, on a des études en ligne, on l'étudiera probablement dans pas très longtemps, pour justement confronter la réalité de ce qui se passe avec ces descriptions qui nous sont données dans la parole de Dieu. Mais c'était un choc pour ces gens-là qui étaient habitués dans l'Ancien Testament à voir l'Esprit Saint sur quelques personnes sélectionnées en vertu de leur grande spiritualité ou leur usage par Dieu. Mais là, on voit que 120 personnes, d'un seul coup, sont remplies d'Esprit Saint. Et puis, il y a cette promesse de l'avènement du Saint-Esprit. Après cela, il part dans le futur lointain, d'abord réalisé en partie à la Pentecôte, et puis à la fin des temps. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves. Je vous ai raconté qu'il n'y a pas longtemps, j'avais eu un rêve. Donc la prophétie continue de se réaliser. Vos jeunes gens auront des visions, et Dieu va faire des prodiges. Donc il faut... On y reviendra la semaine prochaine. Il faut voir la prophétie comme étant une réalité immédiate dans un futur proche et dans un futur plus lointain à la fin des temps. Et donc, ce jour de l'Éternel qui est le thème de Joël, c'est pas quelque chose... qui n'est pas encore arrivé, c'est en partie, on est dans les derniers jours ont commencé lorsque Jésus est reparti. Il nous a parlé, pour nous qui sommes dans les derniers jours, nous dit la lettre aux Hébreux, Dieu nous a parlé par Jésus-Christ. Donc, c'est juste une petite introduction sur la fin de Joël, on verra ça la semaine prochaine. Lisez le passage, posez-vous des questions. Si j'y réponds, ce sera bien. Sinon, n'hésitez pas à venir parler, à vous confronter au texte. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous ouvre les yeux sur des réalités qui sont merveilleuses, qui nous dépassent lorsque nous vivons au jour le jour sans égard pour toi. Seigneur, tu es tout-puissant. Ce que tu dis se passe, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux te prier pour tous ceux d'entre nous qui ont le sentiment que les sauterelles ont tout mangé, que les promesses que nous pensions voir se réaliser dans nos vies, notre croissance chrétienne, dans notre foi, dans nos actions, dans notre influence, nous avons l'impression que nous avons tout gâché. Seigneur, toi tu nous dis qu'il suffit toujours de se repentir et de revenir à toi pour retrouver la plénitude de ton plan. Seigneur, tu rattrapes les années perdues. Et Seigneur, je veux te demander pardon, moi qui porte le nom de ton Fils, du Fils de Dieu Jésus-Christ, en tant que chrétien, je te demande pardon pour mon péché, pour mes mauvaises voies. Seigneur, je veux me repentir. Seigneur, je crois que nous sommes plusieurs, sinon tous, à vouloir le faire en ce moment. Aide-nous à nous repentir de mauvaises voies parce que tu peux guérir notre pays, Seigneur. Nous voyons combien les choses ne vont pas. Et Seigneur, nous ne sommes pas étonnés non plus parce que ta parole nous dit que ces dysfonctionnalités, pour utiliser un mot un peu trop propre, tous ces problèmes, ces crises vont se multiplier, des rumeurs de guerre, des famines, des tremblements de terre, toutes ces choses, Seigneur, vont se multiplier alors que nous approchons de ton jour, Seigneur. Le jour de l'Éternel, c'est le jour de la période de la grande tribulation où tu vas juger la terre impie, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses et à les mettre en application. Aide-nous tous à avoir une attitude de repentance, d'humilité devant toi, à te demander pardon. Et je prie, Seigneur, pour que peut-être on puisse, en France, organiser un jour pour la guérison du pays, Seigneur. Quel témoignage ce serait si les médias entendaient parler de cette voie de guérison qui ne passe pas par la politique, ou plus de syndicats, ou plus d'économies, plus d'argent, plus de taxes, plus de libéralité, ou plus de dirigisme, de libéralisme ou de dirigisme, Seigneur, mais par l'humilité et la prière de tes enfants. C'est notre prière, c'est ma prière ce matin. Sois béni dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.